Il y a déjà des bibliothèques entières écrites sur le sujet, mais on va essayer de voir ça dans une perspective chrétienne, évidemment, et de voir qu'est-ce que c'est et comment le vivre. Et je vais commencer par quelque chose de pas chrétien, qui est la définition dans le dictionnaire de la philosophie. Le bonheur est un état de satisfaction complète, caractérisé par sa stabilité et sa durabilité. Il ne suffit pas de ressentir un bref contentement pour être heureux. Une joie intense n'est pas le bonheur. Un plaisir éphémère non plus. Le bonheur est un état global. L'homme heureux est comblé. Il vit une forme de plénitude. Sa situation est stable. Elle présente un équilibre et seul un élément extérieur pourrait la modifier. Alors, je ne vais pas trop m'étendre pour le moment sur cette définition. On voit que voilà, on peut avoir un moment de joie, de plaisir, mais ce n'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est quelque chose de plus global, on va dire, de plus profond, et de voilà, un sentiment de plénitude, un sentiment d'être comblé. Rien que là-dessus, on pourrait partir bibliquement sur beaucoup de choses. Mais en fait, ma réflexion est partie sur un texte de Jérémie 28 qui m'est venu à l'esprit il y a 2 semaines pendant la louange. Et je n'ai pas tout de suite compris de quoi il s'agissait. Et puis je pense que, en réfléchissant, en écoutant le Saint-Esprit, il y a des choses qui me sont venues. Je vais vous le lire. Dans la même année, Jérémie 28, verset 1 à 4. Dans la même année, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, le 5e mois de la 4e année, donc il s'agit de l'an moins 594, vous aurez fait le calcul vite fait dans la tête, j'imagine, la 4e année, Hanania, le fils d'Azur, prophète de Gabaon, me dit dans la maison de l'Éternel, c'est Jérémie qui rapporte, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple. Donc il y a Hanania qui vient devant tout le monde pour dire « j'ai une prophétie à apporter ». Et le contexte, c'est 3 ans avant, il y a Nebuchadnezzar qui est venu et qui a gagné une bataille, qui a emporté une partie du peuple. Donc il y a déjà une partie du peuple israélite qui est en déportation. Et il vient, il dit « ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je brise le joug du roi de Babylone. Encore 2 années, et je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a enlevé de ce lieu et qu'il a emporté à Babylone. Et je ferai revenir dans ce lieu, dit l'Éternel, Jéconia, le fils de Joachim, le roi de Juda, et tous les captifs de Juda qui sont allés à Babylone, car je briserai le joug du roi de Babylone. » Donc dans le contexte, le peuple ne vit pas forcément le bonheur puisqu'il se retrouve à être assailli par le roi le plus influent de l'époque et d'avoir perdu des batailles et une partie du peuple qui a été déporté. Et donc là, il y a Hanania qui vient, il dit « j'ai reçu une prophétie ». C'est comme si il est en train de dire « ne vous inquiétez pas, continuez à vivre dans la joie, dans la petite période de paix qu'il y a en ce moment, parce que tout va s'arranger, tout ira bien, et puis les choses vont revenir dans l'ordre assez rapidement. Dans 2 ans, les choses vont revenir dans l'ordre. » Et en fait, c'est comme si il est en train de donner une parole d'encouragement, une parole d'espérance. Et c'est un peu aussi des choses que nous, on aimerait entendre, même si on n'est pas dans ce contexte-là, mais que des personnes viennent nous dire « vous allez vivre des choses qui sont bonnes, qui sont bien, qui sont plaisantes, et tout va s'arranger, les problèmes que vous avez vont s'arranger, ce que vous avez perdu va être retrouvé, les gens que vous aimez qui sont partis vont revenir. » Et quelque part, il est en train de prophétiser le bonheur au peuple d'Israël. Alors, dans notre contexte, justement, qu'est-ce qui, pour vous, est important pour le bonheur, si vous voulez, malgré les masques, interagir un petit peu? Voilà, d'être en Dieu, d'avoir la joie de marcher avec Dieu. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans votre liste du bonheur? Les pieds dans la piscine, un bon apéro en famille. Bon, faut pas être timide, hein. Je vais vous dire un petit peu ce qu'il en ressort d'une étude que j'ai lue l'année dernière dans le journal du CNRS, qui retrace une étude qui s'appelle « Les origines du bonheur ». Et ça a été fait il y a 2 ans, donc c'est assez récent. Ils se sont dit « C'est quoi qui donne le bonheur aux gens en 2018 ?» Et dans l'ordre, qu'est-ce qu'ils ont placé ? La santé émotionnelle et mentale, on va le mettre ça sur le même plan. Il faut savoir qu'aux USA, 22% des personnes sont diagnostiquées avec une maladie psychique qui majoritairement se trouve être dans la dépression, l'anxiété, des choses comme ça. Pas forcément, c'est pas des maladies mentales, mais c'est une santé mentale et émotionnelle fragile. 22%, ça commence à faire du monde. Donc on comprend que ce soit une priorité pour beaucoup, d'être bien dans sa tête. Et après, la deuxième chose, c'est d'avoir un partenaire. J'imagine un partenaire avec qui ça se passe bien. Avoir un travail, en troisième position. Avant d'avoir un niveau de revenu important. C'est-à-dire que les gens, déjà, ils veulent se sentir bien dans leur vie en ayant un travail, une activité. Après, le niveau de revenu. Et en cinquième position arrive la santé physique. Et puis, en sixième position, ils ont placé les diplômes. Bon, je ne pense pas que ça rende beaucoup plus heureux d'avoir des diplômes, mais bon, en sixième position. Et qu'est-ce qui peut nous servir aussi, à savoir qu'est-ce qui peut jouer sur notre bonheur ? Il y a aussi, je ne sais pas si vous connaissez, la pyramide des besoins de Maslow. C'est un gars qui a dit, bon, ben, il y a une pyramide avec des besoins fondamentaux, et une fois qu'ils sont comblés, on a d'autres besoins de plus en plus. Alors ça commence par les besoins physiologiques, forcément, se manger, boire. La deuxième chose, c'est la sécurité, se sentir sécurisé. La troisième chose, c'est l'amour et le sens d'appartenance. Ensuite vient l'estime et la réussite, en fait, dans la vie. Ensuite vient la connaissance et la compréhension, tout ce qui est de l'intellect. Ensuite, il y a l'aspect esthétique, pouvoir profiter des belles choses. En avant-dernier, il y a le développement personnel. Et puis, à la fin de sa vie, il s'est dit, il y a quelque chose qui manque quand même. Il a rajouté tout en haut de sa pyramide la transcendance. C'est-à-dire, il y a quelque chose au-dessus, il y a quelque chose d'au-delà, une fois qu'on est... Voilà, on vit bien, sécurisé, on a tout ce qu'il faut, il manque encore quelque chose. Il a dit que c'était la transcendance. Mais bon, dans ces listes, on ne voit pas Dieu apparaître. On ne voit pas Dieu apparaître. Et finalement, est-ce que ce n'est pas là, au contraire, la première brique du bonheur? Le psaume 60, au verset 13, nous dit « Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. » Ce qui est listé dans ces choses-là, c'est qu'est-ce qu'on peut faire humainement, qu'est-ce que les autres peuvent faire pour moi, qu'est-ce que moi je peux faire pour les autres, pour aider au bonheur. Mais là, ce n'est que vanité. Et le verset 14 nous dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. » Et nos ennemis d'aujourd'hui, actuellement, on a la chance de ne pas être en guerre frontale, mais voilà, on rencontre des gens... qui nous posent des problèmes, on rencontre des situations qui sont difficiles, des circonstances qui sont compliquées. Et dans ces choses difficiles, c'est au travers de Dieu qu'on va faire les exploits, et le premier exploit, c'est de vivre avec lui le bonheur, malgré les difficultés. Est-ce que Dieu fait quelque chose pour notre bonheur ? Jérémie 29, 11 nous dit « Oui, moi, le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous, je le déclare. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Et je veux vous donner un avenir plein d'espérance. » Et souvent, on peut avoir l'impression de ne pas vivre le bonheur, de même pas avoir l'espérance. et finalement de se dire qu'on n'a pas d'avenir. Voilà. Alors on s'est dit, ce verset, on en fait quoi ? Le bilan reste que le bonheur reste à l'état de projet, en fait. Dieu a des projets de bonheur, mais ça reste à l'état de projet parfois dans nos vies. Et finalement, comment faire ? Une solution peut être d'essayer de nous combler au travers de ce qui nous est dit humainement, c'est-à-dire avoir la santé, avoir un travail, etc., etc. Avoir la santé, toutes ces choses sont bonnes. Et Asaph nous dit dans le psaume 73, « Je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à la mort. Leur corps est chargé d'embonpoint. » Bon, alors maintenant, on préfère en avoir moins, mais c'est signe de bonne santé. « Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Ainsi sont les méchants toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. » Bon, quand on tire ce bilan-là, on peut se dire, Asaph, tu nous dis quoi ? Tu veux qu'on devienne méchant pour vivre tout ça ? Et puis, quelques versets après, il nous dit, « Quand je réfléchis là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. » Et les méchants... c'est pas ceux qui agissent forcément avec méchanceté. Il y a beaucoup de versets qui parlent des méchants, entre guillemets, le terme qui est utilisé dans la Bible. Mais qui est méchant, c'est surtout celui qui n'obéit pas à Dieu, qui va faire du mal aux autres, consciemment ou inconsciemment, et qui va se faire du mal à lui-même, souvent inconsciemment. Et finalement, on peut être chrétien et méchant, dans le sens biblique du terme, à dire on peut être chrétien, mais ne pas faire la volonté de Dieu. Et du coup, d'être dans cette perspective qui est mauvaise par rapport à ce qu'Asaph nous dit, j'ai pris garde au sort final du méchant. Et là, on peut se dire, finalement, la solution du bonheur, elle n'est peut-être pas terrestre, mais on n'a pas trop envie non plus d'entendre qu'il faut attendre de mourir pour être heureux. Alors, on va essayer de trouver une solution intermédiaire. En tout cas, la solution de facilité qui peut être de vivre comme le monde nous le propose et de profiter des choses de la vie qui semblent nous donner un bonheur, ça ne va pas être la solution. Donc, la solution divine, le mot bonheur est utilisé 60 fois dans la Bible, le terme heureux plus d'une centaine de fois. Et je vous rappelle le premier mot que vous avez chanté ce matin. Le premier mot du premier chant, c'est « heureux ». Et merci Nicolas d'être inspiré par le Saint-Esprit pour cette louange. Et je vais en profiter vraiment pour, on parlait tout à l'heure, prier pour la ville. Vous priez pour votre église, priez pour ceux qui participent à la louange, qui font la louange, qui guident la louange. Parce que c'est tellement important pour Dieu qu'il mettait les adorateurs devant son armée. C'est primordial pour une église forte, une église qui avance, une église remplie du Saint-Esprit. On a chanté heureux et le psaume 32 nous dit « Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. » Alors déjà, être environné de la grâce de Dieu, ça commence à nous donner envie. Alors je ne vous fais pas la liste des béatitudes de Matthieu 5, heureux ceux qui sont bons, qui ont le cœur pur, qui apportent la paix. On a Jésus qui nous cite plusieurs choses qui rendent heureux, mais pas toujours heureux sur le moment. Heureux aussi ceux qui souffrent et ceux qui sont persécutés. Là, on n'a pas forcément la même notion du bonheur que Dieu, en fait. Alors on doit essayer de comprendre ce qu'est le bonheur par rapport à ce que Dieu en dit, et puis comment il veut nous permettre d'y accéder, puisqu'il nous a dit qu'il a des projets de bonheur. Ça marche comment ? La première chose, c'est l'attachement à Dieu et la confiance en Dieu. Job 22 nous dit « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. » S'attacher à Dieu nous apporte la paix qui est source de bonheur. Le proverbe 16, 20 nous dit « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Celui qui se confie en l'Éternel est heureux. On a déjà des choses qu'on va pouvoir mettre dans notre liste de comment faire pour être heureux. Et la première est de s'attacher à Dieu et de lui faire confiance. D'avoir en lui, de recevoir la paix. Chercher sa présence et lui faire confiance, c'est une première étape essentielle pour sentir qu'on vit avec le bonheur qui est son projet. La deuxième chose, c'est de vivre de manière juste. Le psaume 1, et là je suis aussi reconnaissant à Dieu, le livre des psaumes commence par le mot « heureux ». Et après, on peut lire à quel point c'est difficile, jour après jour, que David et d'autres psalmistes se plaignent et que c'est compliqué. Mais le premier mot, c'est « heureux ». Et finalement, on se rend compte, quand on lit les psaumes, qu'à chaque fois que David, par exemple, dit « c'est dur, les ennemis, tout ça, on m'en veut, je suis obligé de fuir, on me persécute », il termine ses psaumes en disant « merci » et il rend grâce à Dieu. Parce que en Dieu, dans le fait que dans les circonstances difficiles, il s'en remet à Dieu, il lui fait confiance, il a cette paix, cette joie surnaturelle qui viennent et qui lui apporte ce bonheur. Alors ça commence par heureux. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Tout le livre des psaumes commence par ce conseil. Pour être heureux, on ne va pas suivre les choses du monde, mais on va s'attacher à Dieu. Le proverbe 13, verset 21 nous dit « Malheur, le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur récompense les justes. » Là encore, on est appelé à vivre de manière juste. Proverbe 28, 10 nous dit aussi « Celui qui égare les hommes droits dans la mauvaise voie tombera dans la fosse qu'il a creusée, mais les hommes intègres hériteront du bonheur. » Donc après l'attachement à Dieu, après le fait de lui remettre nos vies, de lui faire confiance, on a aussi à vivre une vie qui est juste par rapport à ce qu'il nous recommande dans les principes bibliques, dans l'obéissance à ses commandements. Et justement, une troisième chose que j'ai mis pour aller une étape un peu plus loin, c'est obéir avec persévérance. Parce que le psaume 106 au verset 3 nous dit « Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. » Observer la loi, ça va plus loin que dire il y a des bons principes, faut être généreux, faut être en paix, etc., etc. Il y a des bons principes bibliques à mettre en place, mais il y a aussi l'étape d'après des choses qui sont des ordonnances de la part de Dieu, et l'obéissance va nous amener le bonheur. Pour passer un petit peu dans le Nouveau Testament, Luc 11 au verset 28 dit, c'est Jésus qui parle, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Jésus nous dit, heureux ceux qui écoutent la parole et qui la gardent, c'est-à-dire qui l'observent, qui obéissent à cette parole de Dieu. Et il nous le demande de le faire même au travers de la souffrance. Luc 6, verset 22 dit, heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, on vous outragera, on vous rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Donc là encore, Dieu a une notion du bonheur qui n'est pas tout à fait la nôtre. On sera heureux lorsqu'on sera persécuté finalement. Est-ce que c'est un bonheur pour l'avenir? Est-ce que c'est un bonheur pour quand on sera au ciel, on dira « Ah ben je suis heureux d'avoir souffert ?» Je ne pense pas. Je pense que c'est le fait de se rendre compte que ce qu'on vit de difficile, on peut le vivre comme un témoignage et comme une manière d'honorer Dieu, et qu'au travers du cœur qu'on va garder dans l'épreuve, Dieu va nous donner une paix, une joie surnaturelle. Donc c'est pas pour plus tard, c'est pas de souffrir maintenant pour être heureux plus tard. C'est d'être heureux dans la souffrance. Et être heureux dans la souffrance. Comment ça marche? Pour moi, personnellement, dans les épreuves, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de savoir, de connaître la volonté de Dieu. Mais pas seulement de connaître sa volonté, comment dire, générale, c'est-à-dire la Bible dit, mais une volonté spécifique. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu dit de ta situation? Pas forcément répondre au pourquoi, pas forcément d'avoir une explication de pourquoi on vit quelque chose de difficile, mais qu'est-ce que Dieu dit de ton présent et de l'avenir dans la situation que tu es en train de vivre. J'y reviendrai juste après. Matthieu 16 nous dit, Jésus reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Et Jésus fait le rapport ici entre le fait d'avoir une révélation divine et d'être heureux. Il dit « heureux, car tu as reçu cette révélation de la part de mon Père. » Et je pense que c'est un point clé de recevoir ce que Dieu veut nous dire. C'est aussi ça qui va participer au fait de se sentir heureux. Dieu nous parle, Dieu nous révèle des choses, et en fait, il veut cette relation avec nous, il veut nous parler, il nous écoute. Et de savoir ça, rien que savoir ça, c'est très puissant dans le fait de se sentir heureux dans une situation difficile. Et ce que nous dit Jésus au travers de ce verset, c'est aussi que Simon a reçu la révélation, c'est-à-dire il a reçu une parole de vérité. Alors, je veux juste revenir sur cette belle parole de Anania qu'on a lue en introduction, juste pour dire qu'en fait, c'est une fausse prophétie. C'est-à-dire qu'Anania est en train de vouloir donner de l'espérance, du courage, de donner une vision qui va être encourageante, d'appeler à la paix, d'appeler à vivre le bonheur, mais il est en train de mentir. Parce que ce n'est pas ce que Dieu dit de la situation. Et ce que Dieu dit de la situation, on va le lire dans les versets d'après, puisqu'on a lu ce qu'Anania disait dans Jérémie 28. En allant un peu plus loin, en fait, quand Anania va parler, il y aurait plein de choses à dire sur le prophétique là-dessus, mais ce n'est pas le moment. Si vous êtes intéressé, venez au dernier week-end d'août, au séminaire sur le prophétique qui va avoir lieu ici. Mais Jérémie et le reste des responsables du peuple entendent Anania, et les responsables du peuple, c'est ce qu'ils veulent entendre. Ils veulent entendre que les choses vont aller mieux, que ça va s'arranger. Mais en se basant sur une parole qui est fausse, ils vont forcément finir dans la souffrance parce qu'ils vont faire des choix et ils vont croire quelque chose qui est l'inverse de ce qui va vraiment se passer. Et c'est là que je dis que c'est très important dans nos situations de connaître la volonté de Dieu, de savoir comment Dieu veut qu'on traverse les situations difficiles et qu'est-ce qu'il a prévu. Alors, en Jérémie 28, 15... En fait, sur le moment, Jérémie ne va pas répondre. Il va juste dire, écoute, Anania, ça fait quand même pas mal de prophètes qui sont passés avant nous. C'est pas ce que Dieu a dit au travers de ces prophètes-là. On verra, si tu prophétises la paix et que la paix arrive, on dira que tu as prophétisé correctement. Et sur ce moment-là, il n'a rien reçu de plus de la part de Dieu. Mais il revient plus tard avec quelque chose que Dieu a dit de manière très précise et qu'il va partager. Au verset 15, le prophète Jérémie dit au prophète Anania, « Écoute bien, l'Éternel ne t'a pas mandaté et tu fais croire des mensonges à ce peuple. C'est pourquoi voici ce que déclare l'Éternel. Je vais te renvoyer de la surface de la terre. Cette année même, tu mourras car tu as incité à la révolte contre l'Éternel. » je trouve ça très grave parce que on peut se retrouver et à vouloir encourager, à vouloir donner des paroles qui sont positives et qui sont le contraire de ce que Dieu veut dire. Et il faut s'encourager les uns les autres, mais personnellement, j'ai été dans une situation où j'ai vécu ça, c'est-à-dire que j'étais chercheur au CNRS, et ça a toujours été très très dur. J'avais un chef qui me soutenait pas, qui a pas publié mes résultats. Enfin, c'était très compliqué. J'ai eu beaucoup beaucoup de difficultés, et j'ai eu beaucoup de gens très gentils dans l'église qui m'ont dit t'inquiète pas, ça va bien se finir. Tu vas finir par être un chercheur, à faire des grandes découvertes et à m'encourager dans cette voie-là. Et finalement, Dieu a fermé la porte quelques années après, de manière très 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 claire. Et ça m'a fait réfléchir en me disant, j'ai eu des encouragements, c'était gentil, mais ce n'était pas des paroles de la part de Dieu. C'était des frères et sœurs en Christ qui voulaient être gentils et encourageants. Mais je me suis basé sur leurs paroles pour persévérer dans une voie qui n'était pas la voie que Dieu voulait que je prenne. Et c'est important de se dire, ce qui sort de nos bouches, attention à ce qu'on ne dise pas que ça vient de Dieu quand ça vient de nous. En même temps, il faut pas se taire, je veux dire. Il ne faut pas avoir peur non plus de dire des choses à nos frères et sœurs, qu'ils soient dans le besoin ou pas, parce que des fois, on reçoit une parole prophétique, même si on n'en a pas besoin. Mais c'est important de savoir reconnaître en nous la voix de Dieu, notre voix, et aussi les choses qui viennent influencer nos pensées, qui sont ni de nous-mêmes ni de Dieu, parce que ça arrive, afin qu'on puisse, dans les situations qu'on voit chez les autres, apporter la parole juste, une parole juste, et pas forcément une parole positive. En fait, il y a plusieurs années, il y a 4-5 ans, quelqu'un m'a prophétisé quelque chose m'a prophétisé que j'allais passer par une épreuve très 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 dure, et il m'a dit laquelle. Et j'y suis passé, je suis encore dedans. Mais le fait que ça m'ait été prophétisé avant, c'est Dieu qui me disait, je suis au contrôle. Je sais que ça va arriver, ça va se passer. Pourquoi Dieu me l'a dit en avance ? Pour que j'aie confiance qu'il a déjà le plan de sortie. Il sait déjà comment régler le problème. Et moi, je suis en paix dans la souffrance et dans la difficulté parce que Dieu a parlé sur la situation et de manière très claire, et que Dieu est revenu des mois et des mois après rajouter des choses cohérentes à une vision de l'avenir et aussi à une façon de vivre le présent. Et donc, je peux dire que je passe par l'épreuve la plus terrible de ma vie, celle où j'ai dit, je ne veux jamais passer par cette étape-là, cette épreuve-là. Mais je suis heureux. En Dieu. Et des fois, je pleure. Régulièrement. Parce que la souffrance est là. Mais la souffrance n'empêche pas d'être heureux, parce que la souffrance, c'est nos émotions, notre présent dans le monde. Notre bonheur, il n'est pas d'ici. Notre bonheur, il est céleste. La source du bonheur est en Dieu. La vraie source du bonheur est en Dieu. Et c'est vrai que j'ai expérimenté d'être effondré et de simplement m'arrêter, de regarder au ciel et de sentir la présence de Dieu, de sentir sa paix et de me dire, mais tout peut s'écrouler tant que tu es là. Je suis heureux. Mais c'est aussi une manière de se dire, un peu comme, comme Abraham et Isaac, il y a un sacrifice, il y a quelque chose qui est dur, on doit des fois passer par des épreuves. Mais tant qu'on est dans la volonté de Dieu, on peut avoir confiance qu'il est au contrôle et qu'il va réaliser ses projets qui sont des projets de bonheur. Et si on écoute des voix qui ne sont pas la sienne, on risque de partir sur des chemins de traverse, on risque de croire des choses qui ne sont pas ce que Dieu veut. Et là, par contre, ça risque d'être long et d'être plus compliqué. Et on risque de ne pas trouver ce bonheur dans l'épreuve. Alors, je dis ça parce que d'où vient ce bonheur que je peux avoir dans l'épreuve ? Elle vient de la vérité. Elle vient de la vérité de ce que Dieu dit sur la situation, de ce que Dieu dit sur ma position, de ce que Dieu dit de l'avenir. Et c'est crucial de savoir quelle est la vérité et de ne pas se baser sur des choses qui ne sont pas la vérité. La vérité rend libre. Et la première vérité, c'est que Dieu n'a pas promis qu'on ne souffrirait pas. Il a promis d'être avec nous dans la souffrance. Il y a un docteur en psychologie qui s'appelle Manfred Angeli, dans un livre que je vous recommande qui s'appelle Makarios. Makarios, c'est le terme grec pour dire bonheur. Et il dit, pour arriver à être Makarios, à être heureux, nous avons besoin d'apprendre à rester dans la joie et la paix, même au milieu des difficultés et des souffrances. Dieu est un Dieu sauveur qui n'empêche pas la détresse, mais qui lui met des limites. Et au milieu de la souffrance, il est avec nous. On peut être déçu et on pense que dans son amour, Dieu va nous épargner les difficultés. Mais en fait, le plan qu'il avait pour Jésus, c'est de mourir à la croix. Et donc le plan de Dieu pour nos vies, c'est pas forcément de vivre sans souffrance. Mais c'est de vivre son plan en obéissant. Et c'est ça qui apporte la bénédiction. Parce que si Jésus avait voulu éviter la souffrance, on ne serait pas sauvé. Et parfois, c'est une étape pour construire notre vie, et c'est une étape pour nous bénir, et c'est une étape pour bénir les autres. Et donc, il ne faut pas se dire le bonheur, c'est l'absence de souffrance. Le bonheur, c'est la présence de Dieu. J'étais interpellé, on a eu une rencontre après le décès de Jean-Luc à l'église pour se souvenir, se rappeler des belles choses qu'il nous a apportées. Et la famille de Jean-Luc qui était présente nous a dit « Est-ce qu'on peut être dans la joie ?» Ils venaient de perdre un être cher. Et ce qu'ils ont demandé en tout premier, « Est-ce qu'on peut être dans la joie ?» Parce que dans cette souffrance de perdre quelqu'un de cher, il y a aussi cette certitude, cette vérité qui rend libre, qu'il est auprès du Père et qu'on va le revoir. Et que Dieu continue à nous accompagner. Et toutes ces choses, cette paix, cette joie qui sont surnaturelles, qui nous viennent de Dieu au travers des épreuves. Et je pense que c'est une vérité qui nous rend libres, ça aussi, de ne pas être dans la crainte de l'avenir, de ne pas être dans la crainte de la mort, mais d'être vraiment libre. Et il y a un poète allemand du 18e siècle qui s'appelle Matthias Claudius qui dit « N'est pas libre celui qui veut faire ce qu'il veut, mais est libre celui qui arrive à vouloir faire ce qu'il doit faire. » C'est-à-dire que on peut vivre notre foi de manière légaliste et on va pas être heureux. Parce que on va vivre la foi comme une liste d'obligations, des choses qu'il faut faire. On va vivre quelque chose de religieux. Parce que on sait ce qu'on doit faire, parce que la Bible nous le dit. Par contre, on va le faire sous la contrainte. Mais ce que nous dit Matthias Claudius, c'est que vivre libre, ça va être d'arriver à vouloir faire ce qu'on doit faire. Et quand on sait ce qu'on doit faire et qu'on ne le fait pas sous la contrainte, mais qu'on le fait par amour pour Dieu, on est libéré et on fait les choses avec facilité et on fait les choses dans le bonheur. Parce qu'au lieu de faire, au lieu de se flageller, de dire c'est dur, je fais ça pour Dieu et c'est compliqué, je fais tel choix parce que dans la Bible c'est marqué et c'est difficile. Oui, Dieu ne demande pas que des choses simples, mais de le faire sur ce mode de la contrainte, parce que au fond de nous, on ne veut pas le faire. Notre humanité, notre chair ne veut pas le faire. Donc c'est dur. Mais si on soumet notre chair à la volonté de Dieu, là, les choses deviennent simples. Si c'est notre esprit connecté à l'esprit de Dieu qui comme le dit la Bible, produit le vouloir et le faire, à ce moment-là, on va vivre la liberté de faire la volonté de Dieu. Et c'est aussi un point important pour être heureux. Parce que si on vit notre foi de manière religieuse, on n'en retire pas autant de paix, de joie, que de le faire par l'amour et la grâce de Dieu qui vient nous secourir là où les choses sont parfois compliquées à faire. Et puis finalement, la vérité, c'est Jésus. Jésus n'a pas dit « je suis une vérité ». Il a dit « je suis la vérité ». Et de là, on en arrive à se dire, quand c'est dit en Jean 8, « vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre », on est en train de parler d'une personne. On est en train de dire pour vivre libre, connaissez Jésus-Christ. Et vivre cette liberté dans la vérité de ce que Dieu nous révèle, c'est ça qui nous permet aussi d'avancer dans les choses compliquées en étant heureux. Alors bon, je ne vais pas trop... Il y a des choses dans le discernement qui sont importantes, comme je vous disais tout à l'heure, je ne vais pas trop aller dans le détail, mais vraiment de faire la différence entre ce que le monde dit, ce que Dieu dit, ce qu'on comprend, ce qu'on reçoit, qui parle dans nos pensées. Qu'est-ce que Dieu dit réellement? C'est tellement important de vivre cette dimension prophétique pour nous-mêmes, déjà, avant de pouvoir en faire profiter les autres. Parce que si on n'a pas le discernement pour notre propre vie, c'est un peu compliqué d'aller voir les autres en disant « Dieu dit que ». Il faut déjà avoir appris à discerner la voix de Dieu dans nos pensées, à savoir faire le tri, pour savoir quelle est la volonté de Dieu, quelle est la vérité qui va nous libérer dans une circonstance difficile, quelle est la vérité qui va nous libérer pour vivre bien une situation difficile, pour avancer dans ce que Dieu nous demande. Donc c'est cet aspect important. Je vais juste prendre le temps d'un petit témoignage. Il y a à peu près 3 ans, j'ai vraiment senti que Dieu nous disait à ma famille que c'était le temps qu'on allait déménager. On avait une maison. Et j'ai vraiment senti de Dieu, on va changer de maison pour quelque chose qui soit plus grand, plus agréable à vivre, mais qui corresponde plus à nos besoins et aussi à en faire profiter d'autres. On avait une petite maison de 75 mètres carrés, on était un peu coincé, on ne pouvait pas facilement recevoir, héberger. Enfin, bon. Et puis, il y a cette parole qui vient. Et avec cette certitude que c'est comme si Dieu me dit, il y a une maison, je vais vous la donner, pas dans le sens, je vais vous donner les clés, il n'y aura rien à payer, mais dans le sens où je vais vous l'amener, en gros, cette maison. Ça ne va pas être quelque chose qu'il va falloir chercher, marchander, machin, ça. Et en fait, on a dû vendre notre maison en janvier, là. Et de là, on s'est projeté à louer un appartement. Alors, j'ai cherché, parce que, bon, l'idée d'acheter, c'est dans les circonstances, ça semblait ne pas le permettre. Donc, j'ai cherché pendant plusieurs mois à louer un appartement. Et puis, avec les loyers sur Montpellier, je peux vous dire que... On devait se restreindre un peu. Alors je cherchais un truc dans les 80 mètres carrés, trois chambres, voilà, pour que on puisse être quand même suffisamment à l'aise. Pas pire que dans la maison qu'on venait de vendre. Et j'ai cherché et j'étais pas convaincu. J'étais pas bien. J'ai dit, ça va pas. Enfin, bon. Et de là, il y a un peu plus d'un mois, j'appelle une amie et elle me dit, mais ça fait plusieurs mois que je prie pour toi, pour ton logement, pour votre logement. Et quand je prie pour votre logement, je ne vois pas une location d'un appartement. Elle dit, je vois l'achat d'une maison. Je dis, mais dans les circonstances là, maintenant, ça paraît improbable. Ni le bon moment, ni les bonnes conditions, ni... Puis moi, je suis auto-entrepreneur, donc le statut n'est pas facile pour avoir des prêts, tout ça, bon. Elle me dit ça le dimanche soir, au téléphone, et je dis, bah, si tu as reçu ça dans la prière, bah, il y a peut-être Dieu qui dit quelque chose, vraiment, quoi. Donc, je raccroche, je regarde pour la première fois les annonces, je fais une recherche pour quelque chose par chez nous, voilà, et... Dans la première liste des maisons qui sortent, il y en a une que je trouve intéressante. J'ai appelé le lundi matin les propriétaires qui m'ont donné des informations sur la maison assez dingues, comme par exemple, je suis informaticien, je travaille de chez moi, et donc j'ai besoin d'avoir une connexion Internet, un truc qui est bien stable et bien efficace. Et donc, quand j'ai cherché des locations, à chaque fois, c'était un des critères, c'était est-ce qu'il y a Internet qui va bien ? Sinon, moi, je ne peux pas travailler, ça ne va pas aller. Et la dame me dit, sans que je lui demande rien, elle me dit, mon mari est informaticien, il travaille de la maison, on a Internet, le débit le plus haut possible, il y a des prises dans toutes les pièces. Je dis, wow, Seigneur, il se passe quelque chose, là. Et elle me donne des détails, comme ça, au fur et à mesure, où je dis, mais ça devient fou. J'ai cherché une location pour que mes enfants puissent prendre le bus facilement. Et il y a beaucoup de choses où j'ai vu, c'était même à l'intérieur de Montpellier, il fallait marcher un quart d'heure pour avoir un bus qui passait tous les trois quarts d'heure et c'était pas possible. Et là, la maison est située sur le même circuit du même bus que qu'on prenait dans la maison d'avant. Donc, mes enfants, pas perturbés du tout, pouvaient, avec cette maison-là, continuer à prendre exactement le même bus, faire les mêmes trajets. Enfin, il y a tout un tas de choses qui se sont alignées comme ça, de manière incroyable. Donc elle me dit, bon, bah, venez visiter le mardi. Donc je visite le mardi, on visite, moi j'y vais tout seul, puis après on y est retourné. Et ça semblait tellement bien correspondre que... on a fait une proposition qui a été acceptée le jour même. Et la semaine, il y a une dizaine de jours, il y a à peu près deux semaines, j'ai signé le compromis. Et puis le prêt a été accepté il y a une dizaine de jours. Et donc ça continue à suivre son cours. Et la maison, c'est pas un type 4, c'est un type 5. Ça fait pas 80 mètres carrés comme je cherchais, mais 120. Et j'aurais aimé avoir un jardin, il y en a deux, il y en a un bon devant, un bon derrière. Et ça semble être vraiment la maison apportée sur un plateau comme Dieu l'avait promis. C'est exactement ça. Je savais qu'il n'y aurait pas besoin d'aller visiter plein de maisons, de marchander, de ceci, cela. Je ne savais pas comment ça allait se faire. Cette Ami a prié, elle a eu une pensée plusieurs fois à chaque fois qu'elle priait, et elle a saisi que c'était une pensée de Dieu. Et le moment venu, elle me dit, je ne sais pas pourquoi, ça fait des mois que j'ai ça en tête et je ne te l'ai pas dit. Bah parce qu'il y a le timing de Dieu. Et le timing de Dieu voulait que ce dimanche soir, elle me fasse part de ce qu'elle avait en tête, que moi, j'ai confiance, je saisis ce que c'était une parole de Dieu, il y a ça aussi, et que j'agis sans conséquence. C'est-à-dire, Dieu a dit que je passe sur l'achat d'une maison. Je vais regarder ce qu'il y a. Le soir même. Et je tombe sur une annonce. Le lendemain, au téléphone, comme je vous dis, il y a plein de signes qui me disent mais c'est exactement ce qu'on recherche. Et puis ça s'est enchaîné. Et puis Dieu a exaucé la promesse qu'il avait faite. Donc il y a cet aspect de recevoir de la part de Dieu ce qu'il veut faire et de ne pas vouloir faire par soi-même. Parce que moi, à l'époque, il y a 3 ans, j'aurais pu dire, bon, bah, d'accord, on va chercher une maison. Mais bon, laissez Dieu faire avec son timing et puis écouter ce que les frères et sœurs peuvent recevoir pour nous. Et puis saisir, discerner qu'est-ce qui est de Dieu. Et c'est un exemple pour dire, voilà, on a la révélation générale, ce qu'on appelle la Bible, qui nous dit beaucoup, beaucoup de choses pour nos vies. Mais il y a aussi la révélation spécifique pour nos situations, pour nos vies. Et le Saint-Esprit n'a pas arrêté de parler après la Pentecôte. Le Saint-Esprit, il continue à nous parler. Et je pense que c'est un point crucial aussi pour vivre le bonheur, c'est de vivre cette connexion avec le Saint-Esprit qui nous permet au jour le jour, dans le quotidien, de recevoir de la part de Dieu non seulement sa présence, voilà, son amour, sa paix, sa joie, tout ce qui vient nous ressourcer, mais aussi de recevoir ses directives, de recevoir la vision de l'avenir qu'il veut nous donner. Et toutes ces choses, pour moi, c'est une manière puissante d'être heureux dans la souffrance et forcément aussi d'être heureux quand il n'y a pas de souffrance, parce qu'on vit heureusement des belles années où on n'a pas à subir des choses compliquées. Mais quand on passe par la maladie, il ne faut pas que ça nous fasse perdre le bonheur. Quand on passe par la perte de quelqu'un qui est cher, il ne faut pas que ça nous fasse perdre notre bonheur. Oui, on a à vivre et à exprimer nos émotions et à ne pas les renfermer en disant « il faut que je sois heureux, il faut que je sois heureux ». Non. Jésus lui-même a pleuré. Donc il faut vivre nos émotions, il faut exprimer, savoir dire je passe par quelque chose de difficile, parce qu'on est ensemble, on prie les uns pour les autres. Mais il y a le fait de ne pas regarder ce qui fait souffrir seulement, mais de porter nos regards vers Dieu, et puis de recevoir ce bonheur-là, de le connaître, de vivre avec un Dieu vraiment incroyable, qui prend soin de nous, et qui a des plans, des projets de bonheur pour chacun de nous. Et des fois, on a l'impression que ça reste à l'état de projet, comme je disais, mais le but de Dieu, c'est pas juste qu'on soit heureux une fois qu'on sera au ciel. C'est de vivre heureux jour après jour, quoi qu'on puisse vivre, grâce à sa présence. Voilà, je terminerai par ce verset du psaume 23 qu'on connaît tous, « Le bonheur et la grâce m'accompagneront. » Et quand il dit ça, le psalmiste David a dit avant, « Quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, » malgré ça, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu es un Dieu si proche, si attentionné, si attentif. Et ton désir et qu'on puisse être dans la joie, qu'on puisse être dans la paix et qu'on puisse vivre chaque chose en ta présence parce que tu es la source du bonheur. Tu n'es pas une source, tu es la source. Et tout ce qu'on vit de bon vient de toi. Et viens Seigneur nous réconforter là où on ne voit pas le bout du tunnel. Viens nous donner des visions de l'avenir que tu prévois pour nous. Viens, on veut entendre cette révélation spécifique pour nos vies, pour savoir comment passer au travers de l'épreuve, pour savoir comment vivre avec toi jour après jour, la joie d'être en connexion avec toi, et comment aussi être des sources de bonheur pour les autres autour de nous, en apportant à ceux qui sont dans le besoin. Seigneur, on a besoin de toi. Et on sait que tu nous appelles à être heureux de multiples manières. Je prie pour que mes frères et sœurs puissent saisir, comme j'essaie de le faire jour après jour, cette réalité, cette vérité qui nous libère, que nous pouvons nous en remettre totalement à toi, te faire confiance en toutes choses et pour toutes choses, et savoir que dans les bons et dans les mauvais moments, c'est toi la source de notre bonheur. Merci Seigneur. Amen.
Merci Étienne. Donc, comme Étienne le dit, nous aurons un séminaire sur le prophétique ou le prophétisme avec lui du 28 au 30 août, avec un apprentissage et mise en pratique. Donc, on va essayer, on va apprendre. C'est un séminaire important parce que il prépare trois autres week-ends prophétiques que nous aurons. Le suivant, ce sera avec une sœur qui vient d'Afrique du Sud et ce sera fin septembre. Le 1er novembre, ce sera un week-end avec un frère, je ne sais pas s'il est allemand ou des États-Unis, en tout cas il vit en Allemagne. Et puis au mois de décembre, ce sera un frère qui nous vient de Suisse. Voilà, donc le séminaire avec Étienne à la fin du mois d'août, là. Doit aussi nous préparer pour les autres. Pendant le dernier chant, Isabelle Duchesne m'a demandé à ce que on puisse faire les offrandes pendant le dernier chant, parce que ça lui permet de ne pas devoir attendre pour compter l'offrande. Donc si vous souhaitez offrir au Seigneur une offrande dans l'un ou l'autre ou les deux troncs, eh bien, que ça puisse se faire avec joie durant le dernier chant là. On a bien une boîte d'offrandes qu'on pourrait mettre devant, mais elle trouve que c'est beaucoup trop lourd pour elle, donc on va faire comme ça. Allez joyeusement apporter votre offrande au Seigneur pendant ce chant.